Histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernet.
Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Boudon, professeur à la Sorbonne, professeur d'histoire, spécialiste de la période révolutionnaire et de l'Empire, qui publie aux éditions Talendier « Attentats, conspiration et complot », vendu 20,90 € à un ouvrage de 300 pages. Ce que je trouve très intéressant, parce qu'on l'a très peu dit, j'en reviens à ces complots militaires que nous évoquions tout à l'heure, c'est cette hostilité au programme politique de Bonaparte. Vous parliez de la défense des libertés gagnées par la Révolution et que Bonaparte met à mal, mais il y a un autre aspect qu'il ne supporte pas, ces officiers engagés dans ces affaires, c'est le Concordat.
Tout à fait. En 1802, il y a vraiment une fronde qui se développe dans les milieux militaires, liée à la signature du Concordat, et plus exactement à sa promulgation le 8 avril 1802, d'autant qu'au même moment se déroulent d'autres affaires, l'amnistie des émigrés, qui passe très mal chez les militaires, en tout cas chez les officiers qui sont d'origine jacobine, et puis l'autre élément aussi qui les mécontente, c'est le passage au consulat à vie, Bonaparte ayant profité de la signature de la paix avec l'Angleterre pour renforcer son pouvoir en devenant consulat à vie. Et on a souvent minimisé cette opposition militaire. C'est vrai que beaucoup de ces militaires ne vont pas au bout de leur démarche. On pense à quelqu'un comme Oudinot, Bernadotte ou d'autres. Ils sont hostiles au régime de Bonaparte, mais ils sont plus ou moins impliqués dans des conspirations. En tout cas, ils ne vont jamais au bout de leur démarche. D'autres, en revanche, ont cherché à prendre les armes. L'exemple le plus connu, c'est celui du complot dit des libelles ou des pots de beurre, qui est en fait une tentative de soulèvement de l'ensemble des officiers et de l'armée à travers le territoire, que l'on va prévenir par des prospectus, en quelque sorte, des libelles, qui, bon, il y a à la fois des libelles, c'est-à-dire des textes assez longs, et puis des tracts qui sont envoyés, et qui visent finalement à faire en sorte qu'ils entraînent leurs troupes pour s'emparer du pouvoir localement, et ainsi, alors là, on aurait une conspiration nationale qui contribuerait à la chute de Napoléon Bonaparte. Évidemment, rien n'a pu se faire puisque l'opération est découverte avant qu'elle n'ait été lancée, mais le projet était assez ambitieux et suppose que dans l'armée, on sait qu'il y a beaucoup d'opposants à Bonaparte.
Ce qui est étonnant, c'est que ce projet, l'affaire des pots de beurre, est à la fois très sophistiqué, parce que c'est compliqué à mettre en place, et d'une certaine maladresse ou d'une certaine imprudence, parce qu'en fait, ils sont essentiellement livrés par des gens qui, à réception des fameux libelles, vont aller trouver la police.
Le problème était qu'en effet, on envoie des textes à des officiers supposés être des adversaires du régime. Il est possible que l'un ou l'autre ait eu à un moment donné des mots contre Bonaparte, mais surtout ils tiennent à défendre leur vie, leur carrière, et donc ils se rendent à la police par prudence pour certains, par conviction pour d'autres qui sont attachés au régime tel qu'il s'est développé, et donc l'affaire va très rapidement être découverte, mais elle aurait pu, peut-être que si les cibles avaient été mieux choisies, l'affaire aurait pu aller un peu plus loin qu'elle ne l'a été.
Il y a des personnalités extrêmement intéressantes qu'on retrouve d'ailleurs dans la suite de l'histoire sous l'Empire et le reste, parce que ce sont de brillants officiers, des sabreurs, des belles figures de la Grande Armée. Il y a Fournier-Sarlevez, comme un personnage de roman.
Oui, d'ailleurs, il a inspiré les personnages du film Les Duellistes de Ridley Scott. Donc c'est un sabreur, en effet, et qui n'a pas sa langue dans sa poche, puisque dès 1802, il fait partie de ceux qui sont impliqués, là aussi, dans alors c'est pas véritablement une conspiration, mais disons qu'il a des mots très hostiles à l'égard de Napoléon Bonaparte, qui réagit comme il le fait toujours en la matière, surtout quand il s'agit de l'armée, on le renvoie dans ses foyers. C'est-à-dire que Napoléon Bonaparte a très bien compris que s'il s'attaquait de front à ses militaires qui lui étaient hostiles, et s'il les faisait juger, s'il leur faisait de la publicité, il risquait finalement une fronde encore plus grande dans l'armée. Et donc c'est le silence qui s'applique à ces affaires. On ne va jamais juger les militaires qui sont impliqués dans l'affaire, que ce soit dans l'affaire des pots de beurre ou dans la conspiration Donadieu ou d'autres affaires plus ponctuelles. Ils sont renvoyés chez eux. Ils vont passer plusieurs années à se morfondre, à attendre qu'on les rappelle, comme ce sera le cas pour le colonel Fournier.
Comment expliquez-vous d'ailleurs que l'historiographie soit si peu penchée sur ce mécontentement d'une armée qu'on a tendance à nous présenter comme unanimement unie derrière le petit caporal et d'une fidélité à toute épreuve? C'est la légende napoléonienne ou bien peu à peu ces gens se laissent séduire par l'épopée?
Il y a un peu des deux, parce que quand on voit la carrière d'un Fournier Sarlovès, par exemple, c'est à la fin de l'Empire qu'il va donner son meilleur, d'une certaine manière, et lui-même n'a pas véritablement intérêt, comme d'autres, à rappeler ses souvenirs anciens de conspiration, de complot. Finalement, ceux qui vont favoriser cet amalgame à la légende napoléonienne, c'est aussi le fait, par exemple, qu'un général Mallet est exécuté, de même que ses comparses Guidal et Lahorie. Donc on a trois généraux qui sont exécutés. Et ce qui est frappant, c'est qu'alors qu'ils sont républicains pour certains, ils vont passer pour des royalistes au moment de la Restauration. Donc là, c'est la légende, mais à l'inverse, c'est-à-dire que les complots sont considérés comme des, finalement, ayant été fomentés dans le but de rétablir la monarchie.
Il est vrai que dans l'affaire Mallet, on rencontre des personnalités qui sont liées au milieu royaliste. Il y a le prince de Polignac, il y a également Mathieu de Montmorency, qui est le fondateur des Chevaliers de la Foi, donc des gens qui sont incontestablement liés au milieu royaliste. Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'à la Restauration, personne ne souligne par exemple que Guidal est un homme qui a servi en Normandie contre les Chouans et qui est entre autres à l'origine de l'arrestation de Frotté et de son exécution.
Effectivement, il passe finalement pour un... Quand je dis pour un royaliste, c'est pas tout à fait exact, parce que la police de la Restauration sait très bien qui est Guidal, mais on fait quand même un geste. Par exemple, on accorde une pension à sa veuve, alors même qu'ils étaient divorcés depuis 10 ans. Et ça aussi, on n'insiste pas trop sur cela. Donc finalement, ces hommes impliqués, malgré ce qu'ils ont pu faire auparavant, ces hommes impliqués dans l'affaire Mallet vont être portés au pinacle par la Restauration. Et donc finalement, leur mémoire survit de ce point de vue grâce à cela.
Ce qui est remarquable dans l'affaire Mallet, c'est que c'est la démonstration, vous disiez tout à l'heure que la plupart des complots s'étaient produits au début de la carrière de Bonaparte, quand on pense encore pouvoir l'abattre. Avec l'affaire Mallet, on est plutôt vers la fin. Et ce qui est très extraordinaire, c'est qu'on a reproché à Bonaparte de vouloir fonder une dynastie, mais alors qu'il se trouve loin de Paris, eh bien, personne ne va penser que le roi de Rome est censé être son successeur.
C'est assez frappant d'ailleurs de voir que toutes les élites du pays ont complètement oublié le roi de Rome en 1812. Personne, à l'annonce de la mort de Napoléon, ne crie « l'empereur est mort, vive l'empereur » comme ça aurait dû être le cas, que ce soit dans les milieux militaires ou dans les milieux civils. Ce qui prouve bien qu'en fait le régime repose essentiellement sur Napoléon et que si Napoléon n'est plus, eh bien, à ce moment-là, on change de régime. Et c'est d'ailleurs toute l'analyse que fait Mallet. Mallet, qu'on a toujours présenté comme un personnage un peu fantoche, en réalité, même s'il a été très discret, pour le coup, dans le montage de cette opération, il sait très bien que s'il veut réussir, il trouvera des soutiens à la fois dans l'armée. C'est toujours la permanence d'un courant d'opposition qui est sans doute pas majoritaire, mais qui est présent dans l'armée de Napoléon. Et puis, il sait qu'il peut aussi compter sur les royalistes. D'ailleurs, dans le gouvernement provisoire qu'il a élaboré, il inclut des royalistes, Polignac, Mathieu de Montmorency, c'est-à-dire ceux qui ont aussi contribué à la formation de ces réseaux royalistes clandestins, à travers notamment l'Association des Chevaliers de la Foi, et qui diffuse la bulle d'excommunication du pape, mais aussi prépare une éventuelle insurrection contre Napoléon, bon, qui échouera finalement. Mais il y a là des réseaux qui sont présents, et Mallet le sait. Il est en contact avec ses royalistes dans la maison de santé du docteur Dubuisson. Donc ce n'est pas un esprit fou comme on a pu le présenter, il y a vraiment une réflexion sur la manière de changer de régime à ce moment-là.
Et il a quand même réussi à s'emparer d'un certain nombre de réseaux du pouvoir. Ça aurait pu fonctionner, ça rappelle jusqu'à un certain point l'affaire Valkyrie contre Hitler. Mais pourquoi est-ce qu'au fond l'affaire va capoter ?
Elle capote parce qu'il ne parvient pas justement à s'emparer de tous les lieux du pouvoir. Et là où il échoue, c'est quand il veut s'en prendre au gouverneur militaire, parce que, bon, entrer dans un ministère, arrêter le ministre de la police, c'est assez facile. Finalement, il y a très peu de gardes. Et puis surtout, la force armée s'impose à ce moment-là. Lorsqu'on arrive chez le gouverneur militaire, c'est un peu plus compliqué, d'autant que lui ne se laisse pas faire. Il est sans doute un des rares à avoir réagi, à ne pas avoir cru la réalité des ordres que Mallet lui propose. Et donc, à partir du moment où Mallet est arrêté, c'est toute l'opération qui échoue, d'autant que finalement, cela repose sur un malentendu. C'est-à-dire que les soldats que l'on est allé chercher dans différentes casernes et que l'on a impliqués dans le complot, dont certains seront jugés, exécutés, ces soldats pensent légitimement qu'ils agissent en vertu d'ordres qui proviennent du Sénat. Et donc, très vite, ils vont être ramenés à la réalité et s'apercevoir qu'ils ont été dupés.
Mais comment se fait-il, au demeurant, le télégraphe existe depuis déjà un certain temps, comment se fait-il que l'on ne songe pas à vérifier la véracité de cette information concernant la mort de Napoléon ?
Alors le télégraphe ne va pas jusqu'en Russie, et c'est toute la difficulté des communications entre Moscou et Paris à cette époque. Il faut à peu près 2 semaines pour qu'un courrier parvienne d'une île à l'autre. Or, beaucoup de ces courriers ont été à ce moment-là interceptés, et les nouvelles sont très rares. Ces courriers ont été interceptés par les Russes. Beaucoup de lettres, d'ailleurs, ont ensuite pu être publiées parce qu'elles avaient été récupérées par les Russes. Et donc, les nouvelles ne passent pas. Et c'est pour cette raison que Mallet, finalement, il profite de cette absence de nouvelles pour laisser entendre que lui a eu vent de cette mort de Napoléon, il précise, sous les murs de Moscou. Donc c'est assez étonnant parce que en réalité, Napoléon a quitté depuis un mois, 3 semaines en tout cas, Moscou à ce moment-là.
Quelle est la réaction du public parisien à ces nouvelles et à ce qui ressemble quand même à un coup d'État ? Finalement, on n'a pas le sentiment que les gens sont particulièrement frappés par la mort de l'empereur, ni très attristés.
L'opinion publique parisienne n'a pas véritablement eu le temps de prendre conscience de ce qui se passait. Parce que les événements commencent assez tôt dans la matinée. Le public parisien s'aperçoit qu'il se passe des choses au centre de Paris à partir du moment où ils sortent dans la rue. Mais l'écho n'a pas été majeur. Bon, il y a une curiosité qu'on aperçoit, il y a des conversations dans les cafés en particulier, mais l'écho n'a pas été majeur. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les autorités ont imaginé que cela pouvait être l'élément immergé d'une plus vaste conspiration. Et le ministre de l'Intérieur va écrire à tous les préfets pour prendre des renseignements sur l'état de l'opinion, région par région, pour savoir s'il n'y avait pas un plus vaste projet qui aurait impliqué beaucoup plus de monde qu'on ne l'imagine à l'époque. Tous répondent que l'ordre est rétabli. Il n'est pas certain qu'il n'y ait pas eu des connexions en province, mais l'objectif du gouvernement à partir de ce moment-là, c'est de tout faire pour laisser penser que la conspiration Mallet et le fait d'un seul homme, d'un exalté, d'un fou, isolé, parce qu'on ne veut pas laisser penser qu'il puisse y avoir un mouvement d'opinion beaucoup plus large à travers le pays.
Cette émission touche à sa fin. Pour conclure, est-ce que vous pourriez nous dire si toutes ces affaires sont en quelque sorte la part d'ombre de l'Empire et la preuve finalement que le pouvoir, malgré ses succès, sa gloire, ses victoires, en fait est très loin d'être enraciné dans la réalité ?
Ces complots sont en effet le signe que Napoléon n'a pas fait l'unanimité lorsqu'il était au pouvoir, mais ces complots vont aussi le servir, parce que à chaque fois qu'il y a finalement un complot, il s'en sert pour renforcer son pouvoir. on pourrait presque dire que les conspirateurs ont contribué à l'enracinement du pouvoir autoritaire de Napoléon, à son renforcement tout au long de la période, y compris après l'affaire Mallet, puisque la suite de l'affaire Mallet, c'est l'instauration de la régence, et c'est une reprise en main avec un changement du parti des préfets, par exemple, une reprise en main par Napoléon, et donc un renforcement de son pouvoir également.
Cela dit, on constatera quelques mois plus tard que la régence n'est pas quelque chose qui fonctionne magnifiquement bien.
C'est vrai.
Merci infiniment pour cette intervention absolument passionnante. Je rappelle que vous êtes l'auteur chez Talendier de « Il voulait tuer Napoléon, attentat, conspiration et complot », un ouvrage qui se lit avec un très vif intérêt. Merci infiniment.
Merci à vous.